La manufacture RH vous présente 13e mois.
La première chose que j'ai fait, c'est comment est-ce que je peux gagner du temps. Donc en termes de paye, mais aussi en termes de gestion d'équipe. Pour moi, le savoir-être, c'est le principal. On est une boîte jeune, on essaie un peu justement de casser ces codes-là. Pour nous, les diplômes, c'est pas important.
J'aime entendre ça parce que quand j'en parle ou quand on met en avant ces choses-là, beaucoup nous disent « ouais, mais ça c'est Disneyland ». Non, ce sont des choses réelles. Il y a toujours beaucoup de ressenti sur le turnover. Tu demandes à un manager, il te dit « ouais, je pense que le mois dernier, ça a été un peu mieux que le mois d'avant ». Ok, mais en fait, c'est quoi les chiffres ?
Ils sont dans un quotidien, ils se rendent pas compte obligatoirement que voilà, y a un collaborateur qui est arrivé, qui est parti assez rapidement, il a remplacé. Ils voient pas obligatoirement ils peuvent pas quantifier en fait ça. Je dis toujours, on a une fonction support, on bosse pour le business, pour accompagner et faire en sorte que tout se passe le mieux possible.
Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ?
C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Hubert.
Bonjour Flaubert.
Alors, je dis bonjour, mais en fait, je devrais plutôt dire aloha. Aloha parce que j'ai remarqué que c'est comme ça que tu commençais tous tes mails, Hubert. Alors, aloha pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est le bonjour, au revoir également, hawaïen. En fait, c'est aussi le truc des surfeurs. C'est comme ça que les surfeurs se saluent et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de DRH qui commencent leur mail de la sorte en mettant « Aloha ». Alors, je trouve d'ailleurs sur le fond que cette petite anecdote, elle est très révélatrice de la faculté que doivent avoir les RH pour coller à l'image de la marque pour laquelle ils travaillent au quotidien. C'est pour moi la vraie concrétisation d'un alignement entre ce que la marque incarne pour les clients externes, ceux qui viennent au quotidien dans les boutiques, dans les restaurants, dépenser de l'argent. Et puis, alignement avec ce que vivent les clients internes, ce que j'appelle les clients internes des ressources humaines, à savoir les collaboratrices et collaborateurs. Et on en parlera un peu plus en avant dans notre échange, Hubert, sur ce qu'est Pokawa, quelles sont les valeurs de Pokawa. Mais je trouve que ce petit aloha que tu utilises dans tes mails est très révélateur. Alors, avant de commencer, eh bien, qui es-tu, Hubert Stéphanie ? Quel est ton parcours professionnel ?
Alors, moi, j'ai commencé plutôt dans une carrière plutôt commerciale. Après le bac, j'ai tout de suite enchaîné sur un BTS négociation relations clients en alternance. Pour moi, c'était hyper important de pouvoir déjà débuter en fait mes expériences professionnelles tout de suite. C'est pour ça que j'ai choisi l'alternance. J'aimais beaucoup le contact commercial, c'est-à-dire vraiment de rencontrer des gens, échanger avec eux. Moi, c'est vraiment ce qui me plaisait, c'est ce que j'avais envie de faire. Et je me suis naturellement tourné vers ça parce que je suis dans un milieu familial aussi, plutôt commercial, avec mon père. Suite à cette expérience-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas obligatoirement ce qui me plaisait, dans le sens où le côté commercial, on va vraiment arriver et voir un client, lui vendre le produit. Donc on va avoir en fait un discours qui va être travaillé, qui va être tracé, formaté, effectivement, et qui ne va pas être obligatoirement naturel. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était un peu cassé en fait, dans ces échanges-là. Et j'ai découvert après, en fait, les ressources humaines dans un cours. Et en fait, l'approche qui a été présentée, c'était vraiment ce qui me correspondait. C'est-à-dire que ça correspondait au côté commercial où on va vraiment échanger, rencontrer les gens, parler avec eux. Mais en même temps, on va les accompagner. Et il n'y aura pas vraiment ce rapport de force qu'il peut y avoir dans un échange où on va obligatoirement négocier, on va chacun attendre quelque chose de l'autre. Mmh. Alors qu'en fait, dans la partie RH, c'est plus l'autre personne qui va attendre de nous, de l'accompagner, et nous qui vont pouvoir le donner. Donc ça va aller plutôt dans un sens, entre guillemets, que dans les deux où il va y avoir ce rapport de force.
Tu donnes plus que tu reçois.
Exactement.
Ouais. Ok. Ok, et en termes de... Avant de rentrer chez Pokawa.
Et donc, avant de rentrer chez Pokawa, j'ai eu pas mal de petites expériences. J'ai commencé dans une USS2I en recrutement. Donc, j'ai fait pas mal de sourcing, d'entretiens, etc.
Donc, tu commences ta carrière par le recrutement.
Exactement.
Ok.
Voilà. Comme beaucoup.
Mm-hmm.
Ensuite, j'ai continué dans une entreprise un peu plus grosse qui s'appelle CFAO, où j'étais chargé de formation. CFAO, c'est...
CFAO, ils font du retail à l'étranger.
Exactement,
aussi.
Exactement, en Afrique.
Ok, c'est ça.
Tout. Ouais. Donc là, j'étais vraiment chargé de formation. Donc, pour moi, c'était hyper important en fait, de comprendre comment fonctionnait le recrutement et la formation, mm-hmm. parce que c'est les deux parties des ressources humaines qui sont les plus importantes, peut-être avec la paye aussi, mais pour avoir une vision assez généraliste. Moi, j'ai toujours voulu toucher un peu à tout,
mm-hmm.
Avoir une vision, je disais, généraliste, qui me permettait de pouvoir, prendre de la hauteur et à terme ce que je voulais c'était aussi avoir un poste de responsable et pour moi c'est important de passer par les différentes étapes pour pouvoir prétendre à ce genre de poste. Et donc ensuite je suis arrivé chez à l'atelier des chefs.
Mm-hmm.
À l'atelier des chefs j'ai été accompagné d'une responsable RH où là on était vraiment sur du généraliste. Donc je faisais tout, je faisais du recrutement, je faisais de la formation, je faisais de la paye, je faisais de l'administration du personnel, je touchais absolument à tout. C'est là où j'ai le plus aimé ce que je faisais parce que c'était vraiment diversifié. Et donc à suite de ça, j'ai vu une opportunité du coup chez Pokawa et c'est là où je me suis positionné parce que j'ai trouvé l'offre d'emploi hyper originale, l'approche hyper originale et en fait ça me correspondait vachement. Et je me suis dit vas-y fonce, postule, ça verrait que en fait, le profil qu'ils recherchaient était... C'est exactement en fait, le profil que j'avais à ce moment-là.
Comme quoi, les offres d'emploi et ce qu'il y a dans une offre d'emploi, ça me fait penser à ça, ça a vraiment de l'importance. Et c'est vrai que, alors moi aujourd'hui, c'est mon métier, je fais du recrutement. L'impact de l'offre d'emploi, il est quand même super important. Tu le dis, toi, tu dis, tiens, j'ai vu, tu as déjà vu l'état d'esprit de la boîte dans l'offre d'emploi, dans ce que tu as lu, et tu t'es dit, waouh, c'est là, il faut que j'aille.
Exactement. En fait, c'est hyper important ces offres d'emploi parce qu'en fait, ça va être vraiment la vitrine aussi de l'entreprise tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on va aller chercher une offre d'emploi, on va lire. Et en fait, plus c'est original, plus ça va nous donner envie de lire, de venir. Et en fait, on va tout de suite comprendre aussi l'état d'esprit de la société dans laquelle on va postuler. On met beaucoup d'emojis. Le Aloha, effectivement, ce genre de discours.
Vous l'utilisez
est très
cas,
important.
Vous reprenez des codes un peu comme ça dans vos offres d'emploi.
Exactement. Okay. Voilà, on parle d'ananas, de paille. On est vraiment dans cet état d'esprit, exactement, un peu hawaïen.
Y compris sur les fonctions support.
Exactement.
Okay.
Ouais. On fait ça vraiment sur toutes les fonctions. Des petits détails, mais au début, quand je suis arrivé, on mettait aussi happy avant toutes les offres d'emploi. Donc happy employé polyvalent, happy manager, happy j'ai postulé à une offre d'emploi, happy responsable RH.
D'accord.
Donc c'est des petits détails, mais finalement, en fait, je trouve que ça fait pas mal de choses. Parce que tout de suite, on voit l'état d'esprit dans lequel est l'entreprise.
Ok. Alors, on s'est un peu emballé parce qu'on parle de Pokawa. Toutes celles et ceux qui travaillent dans la restauration, dans le retail, connaissent Pokawa parce que c'est une enseigne aujourd'hui qui est très connue. Mais pour les autres, et même pour celles et ceux qui connaissent, tu peux nous donner des chiffres. D'où vient Pokawa aujourd'hui, combien il y a de points de vente, combien il y a de collaboratrices, de collaborateurs, et puis un peu les valeurs de l'entreprise.
Ouais. Donc Pokawa, ça a été créé en 2017. Mm-hmm. C'est assez récent, ça a bientôt 5 ans. Aujourd'hui, c'est à 75 points de vente. À peu près la moitié en propre, la moitié en franchise. On fait à peu près 50 millions de chiffre d'affaires. On a 350 collaborateurs sur les restaurants propres et au siège. Et tout ça est encore en développement. On est présent sur 3 pays actuellement. On est présent en France, on est présent en Belgique, on est présent au Luxembourg. Et on se développe aujourd'hui dans d'autres pays.
Donc, pour celles et ceux qui seraient encore un peu en train de se réveiller, de prendre un café, de nous écouter. Il y a 5 ans, Pokawa naît. Aujourd'hui, on est sur une structure qui a 75 points de vente, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 salariés. Pas mal quand même, en 5 ans.
Ouais.
Et toi, t'es arrivé quand dans l'histoire ?
Moi, je suis arrivé en avril 2019.
Ok.
Voilà, donc il y avait à l'époque 4-5 restaurants. Donc c'était assez petit. À l'époque, il y avait une amie des fondateurs, de nos fondateurs, qui était là et qui gérait la partie ressources humaines et la partie plutôt administration finance. Mmh. Voilà. Cette personne-là est partie pour développer son propre projet professionnel. Et à ce moment-là, étant donné que la société se développait beaucoup, les fondateurs ont décidé de prendre des professionnels qui vont être plutôt spécialisés dans leur domaine, donc en administration finance et en ressources humaines. Donc ils ont vraiment décidé de séparer ces deux parties. Et c'est là où, du coup, moi, je suis arrivé. Effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire, puisque cette personne-là qui était présente avant moi n'avait pas fait d'études RH, n'avait pas les connaissances, a donc dû se débrouiller en fait avec ses propres connaissances.
Alors ça, c'est un truc, moi, que je note souvent et que je vois dans les groupes qui ont connu un essor assez rapide. Au début, on est en effet sur une fonction qui est souvent mixé avec la fonction un peu finance, admin. Et puis, dès que la boîte commence à avoir un vrai essor, là, on professionnalise la partie RH, on professionnalise la fonction RH et on va chercher un professionnel qui, en plus, toi, venant de chez l'atelier des chefs, tu connaissais la resto. Donc, ça a vraiment du sens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à voir assez souvent.
C'est souvent aussi parce que dans les ressources humaines, les premières choses qu'on doit gérer, c'est les payes. C'est de la compta. Donc en fait, paraît totalement logique, ouais. Exactement. Et le recrutement, après, se fait au fur et à mesure. Enfin, ça peut être par les fondateurs ou par d'autres personnes. Mais la première fonction, on va dire, RH qu'il peut y avoir avec le recrutement, c'est la paye, donc la compta.
Alors raconte-nous, là, t'arrives en 2019, il y a 4-5 restos. C'est comment ? Qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu vois ? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place ?
Alors, j'arrive, je vois une entreprise qui n'est pas obligatoirement très bien organisée en termes de ressources humaines.
Normal, ce qui est normal.
Ce qui est normal. Et c'est là où je me dis, génial, il y a tout à faire. Mmh. Et à partir de là, on prend un peu de recul et on se dit quels sont les premiers chantiers sur lesquels on va travailler. Et ce que j'ai décidé de travailler en premier, ça a été surtout la paye, parce que les process étaient extrêmement lourds. Donc quand je suis arrivé, on utilisait le logiciel Payfit. Payfit, okay. Qui est assez connu dans le milieu de la paye. Payfit, c'est très bien quand on monte une société et qu'on ne sait pas faire de paye, parce que ça t'accompagne énormément. C'est hyper intuitif, donc je le recommande vraiment pour les sociétés qui se développent.
Ok, petit coucou, donc Payfit, voilà, vous êtes dans le podcast 13e mois, c'est bien, ça passe.
Et en fait, la personne qui était là avant moi, elle n'utilisait pas l'outil à son maximum.
Il existait déjà, il existait déjà en place,
exactement,
mais toute la puissance n'était pas utilisée.
Ouais. Okay. Un exemple très concret, les fichiers CEPA n'étaient pas utilisés, c'est-à-dire que les fiches de paye étaient établies, les montants nets étaient notés sur un carnet avec le prénom de la personne devant, on allait sur le compte en banque de la société, on allait noter les RIB, les montants nets, on les notait à la main. Et on a envoyé le...
Ok, donc
le
c'était genre. Fait à la mano,
tout était
l'ancienne.
Fait à la main.
Bon, 4-5 restos, ça se faisait un peu...
Ça faisait à peu près...
sur un coin de table, quoi.
40 collaborateurs, okay. Mais c'est source d'erreur, obligatoirement.
Oui, bien sûr.
Parce que plus on note sur différents supports, plus on peut faire des erreurs. L'idée, c'était vraiment de travailler là-dessus, de travailler pour automatiser, parce que l'idée de la paye aussi, c'est que c'est très admin et il faut perdre le moins de temps possible aussi là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler.
Donc, ton premier sujet, tu arrives et tu te dis, moi, focus paye pour automatiser. J'entends aussi sécuriser derrière.
Exactement.
Parce que ben, moi, je dis toujours, hein, mais la paye, c'est juste la vitrine des RH. À un moment donné, chacun travaille pour son salaire à la fin du mois. Si tu as des problèmes en paye, bon, tu peux faire tout ce que tu veux pour fidéliser et recruter, mais ça ne va pas le faire. Donc toi, ton premier focus, c'est paye, je sécurise, j'automatise pour gagner du temps.
Exactement.
OK.
En fait, la première chose que j'ai fait, c'est comment est-ce que je peux gagner du temps. En réalité, ça a été vraiment ça. Donc, en termes de paye, mais aussi en termes de gestion d'équipe. Pourquoi ? Parce que dans les restaurants, on était toujours sur des équipes plutôt à flux tendu. Donc, pas trop de collaborateurs, en même temps, pas assez pour faire le service. Donc, dès qu'il manquait quelqu'un, obligatoirement, ça se ressentait. Donc, ça impactait sur le service, sur la préparation. Et souvent, les managers m'appelaient en me disant, à 11h, ils m'appelaient, ils me disaient, il me manque quelqu'un, il faut que tu me trouves quelqu'un pour midi.
Ok, pas mal. En une heure.
En une heure.
Trouve quelqu'un dans Paris.
Exactement.
Tu prends ton scooter, tu vas chercher.
Donc, c'était un peu ça. J'avais quelques contacts qu'on m'avait donnés aussi pour travailler. Après, c'est sûr que trouver un extra en une heure, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'appelais plusieurs personnes en leur demandant est-ce que tu es dispo pour venir travailler. Ça prenait énormément de temps parce que c'était quasiment tous les midis, tous les soirs. Ça me prenait à peu près 60-70% de mon temps. À partir de là, je me suis dit, OK, on a une problématique en termes d'extra. C'est-à-dire que dès qu'il y a un besoin, moi, je vais devoir appeler 30 personnes à peu près pour trouver un extra. Comment est-ce que je peux gagner du temps là-dessus ? On s'est dit qu'on allait retourner la situation et au lieu de devoir appeler 30 personnes différentes, on va envoyer un message et c'est ces 30 personnes-là qui vont se positionner, s'ils le souhaitent. Donc on a créé un compte WhatsApp.
T'inverses le truc.
Exactement, on a créé un compte WhatsApp et avec tous les extras, toutes les personnes qui étaient disponibles pour travailler. On a envoyé en fait nos missions en disant voilà, j'ai besoin d'un extra ce soir, par exemple de 18 à 23 heures, et la première personne qui se positionnait venait travailler.
Donc tu te crées un pool d'extra.
Exactement.
Ok, pour arriver à. D'accord, donc paye, automatisation, sécurisation, et tu inverses un peu. Au niveau de ton staff en disant je crée un pool de personnes qui vont pouvoir venir nous donner un coup de main.
Exactement.
Quand on en a besoin. Ça fait partie du recrutement, ça ? Ça veut dire que ton deuxième sujet, ta deuxième thématique, c'est le recrutement ?
Ouais.
Le staffing ?
Oui, exactement. C'était ça. Du coup, au début, pas d'outils. Autre chose aussi, ce qui corrèle un peu les extras et la paye, on a mis un outil en place aussi qui est vraiment top, en tout cas pour nous dans la restauration, notamment sur les extras, ça s'appelle Badakan. Badakan, en fait, c'est une société qui va nous accompagner à trouver des extras. Donc nous, on l'utilise d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on va externaliser toute la partie administrative de nos extras.
D'accord.
Donc Badakan ne va pas chercher des extras pour nous, on a nos propres extras. Qu'on a formé.
Mais eux gèrent l'admin.
Mais eux gèrent toute l'admin. Donc ils gèrent tous nos contrats, ils gèrent toute la paye, etc. Donc en fait, on a vraiment un service qui est clé en main et qui nous permet de gagner énormément de temps parce qu'un extra, c'est un CDD d'usage, c'est un contrat à la mission. Aujourd'hui, on a beaucoup d'extras, beaucoup de missions. Donc ça nous prendrait énormément de temps de traiter ces documents-là. Et ça nous permet de gagner vraiment beaucoup de temps.
Alors, c'est vrai que la partie admin, elle est super importante. Et oui, cette partie extra gestion de l'administratif, parce que Il suffit pas juste de dire à quelqu'un « viens bosser », mais il y a quand même une partie admin à gérer. Ok, je précise que là, on parle d'un autre outil, hein, Badacan. D'ailleurs, de mémoire, une des personnes qui a travaillé à la structuration, à la mise en place de Badacan, c'est un ancien de Sushi Shop, je crois. Il a fait ses premières armes chez Sushi Shop, entreprise qui me tient à cœur, évidemment. Et je précise aussi que ce podcast n'est pas sponsorisé, mais on est juste là pour donner aussi des outils. Il n'est pas encore sponsorisé, il le sera peut-être un jour, mais on est là pour donner aussi des tips et des outils qui fonctionnent. Ok, donc là, tu structures aussi toute la partie admin pour, à nouveau, j'entends que le dénominateur commun, c'est gagner du temps. Mmh. C'est ça ?
Exactement.
Ok. Parfait.
C'est s'organiser, gagner du temps et pouvoir ensuite travailler sur des travaux de fond ou plus de développement. Par exemple, vraiment comment mieux recruter et ne plus être dans l'urgence, c'est prévoir.
Donc, première partie de ta structuration, les piliers que tu mets en place, c'est vraiment gagner du temps. Là, tu travailles tes fondations. Mmh. Et après, tu vas monter d'un cran. Quand parfois certains disent, ouais, les RH, est-ce que c'est opérationnel ou pas ? En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce côté opérationnel des RH, là on est en plein dedans, là on t'imagine hein, en plein milieu du chantier, là t'as retroussé les manches et tu y vas, et c'est top de pouvoir partager tout ça. Ok, encore autre chose comme ça sur lequel tu t'es attelé, sur lequel t'as travaillé peut-être dans un troisième temps, on a vu les deux premiers temps.
Dans un troisième temps, après, une fois que le développement s'est fait aussi, l'idée c'est de travailler sur des travaux plus de fond. Donc ça va être de la formation, créer une équipe aussi, puisque elle est venue après. Alors après, c'est vrai que
une équipe pour toi, au niveau RH.
Une équipe RH, exactement. Donc pour pouvoir justement accompagner, puisque le développement s'est fait très rapidement, on a ouvert beaucoup de restos très vite, donc au bout d'un moment, les sujets ne sont plus les mêmes, on est obligé de prendre un peu plus de hauteur et travailler vraiment sur une structuration en termes de formation et de recrutement.
Mmh. Ok, donc dans un troisième temps, tu structures ton équipe, et d'ailleurs aujourd'hui, ton équipe c'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ?
Aujourd'hui, on est une équipe de 8.
Ok. Ouais, t'arrives tout seul. Aujourd'hui, vous êtes 8.
Exactement. Donc, en 3 ans. Donc, c'est un très, très beau développement. Aujourd'hui, j'ai structuré mon équipe en 3 piliers. Mm-hmm. Premier, en termes de recrutement. Aujourd'hui, on a 3 chargés de recrutement qui vont être responsables de leur secteur.
Recrutement, donc pour les points de vente.
Exactement, pour les points de vente et pour le siège. Okay. Aussi. L'idée, c'est de pouvoir responsabiliser au maximum les équipes pour qu'elles puissent, eux, se développer. Par exemple, on a un chargé de recrutement qui va s'occuper de l'Île-de-France, un chargé de recrutement qui va s'occuper plutôt de Sud et Ouest, et un autre chargé de recrutement qui va plutôt s'occuper de l'Est. Voilà.
Ok, en recrutant sur l'ensemble des fonctions.
Exactement. Ok. Voilà, donc vraiment manager, assistant manager, équipier polyvalent, cuisinier. On a vraiment tous les types de profils.
D'accord. Et là aussi, petit conseil à nos auditrices et auditeurs, mais si un jour vous posez la question de vous dire, mais est-ce que je sectorise le recrutement par fonction ou par périmètre ? L'intérêt de le faire par périmètre, c'est justement que ton ou ta chargée de recrutement va rayonner sur l'ensemble des fonctions. Donc, des fonctions peut-être un peu moins... qui vont susciter un peu moins de réflexion. Ou bon, quand on recrute certaines fonctions, c'est beaucoup de volume. Mais après, cette personne va aussi pouvoir travailler sur des fonctions un peu plus challenging, où là, il va falloir mettre en place d'autres pratiques en matière de recrutement. Et ça donne de l'intérêt à la fonction de chargé de recrutement, on est d'accord là-dessus ?
Exactement. On a 2 types de recrutement. On a plutôt des recrutements d'accompagnement. C'est plutôt une mission d'accompagnement où on va recevoir le besoin du manager qui va nous annoncer qu'il a besoin d'un employé polyvalent ou d'un responsable d'équipe. On est plutôt sur des profils juniors là-dessus. Et on va, nous, le service RH, envoyer les CV, sélectionner les CV, leur envoyer et suivre avec les managers le recrutement. Mais ça va être vraiment les managers qui vont être responsables de leur recrutement parce qu'on va les responsabiliser.
Ouais, ok, simplement. C'est une façon de, d'éviter aussi qu'il y ait trop de choses qui passent par le siège et puis qu'à un moment donné, il n'y a plus de bande passante et que tes équipes soient surbookées, qu'elles n'arrivent plus à recruter. Donc il y a cette volonté de redescendre sur le terrain et de faire gérer ça par les opérationnels au niveau directement des points de vente.
Exactement. Après, les profils d'employés polyvalents ou responsables d'équipe, moi je considère que c'est plus sur la personnalité. C'est vraiment arriver dans le restaurant, ça va matcher, il va être souriant, il va bien s'intégrer dans l'équipe. Et ça, nous, à notre niveau, on va pas pouvoir le voir puisqu'on est dans les bureaux. C'est sûr que recruter par exemple à Marseille ou à Toulouse à distance un employé polyvalent, c'est quasiment impossible. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. C'est sûr que c'est au manager en fait de voir ce genre de choses là. Et puis c'est au manager aussi de créer son équipe.
Ok, on est d'accord. Moi, je me suis toujours battu aussi. À un moment donné, il y avait des opérationnels qui disaient non, mais amenez-nous du monde, recrutez, on vous fait confiance. Non, il y a quand même de toute façon un go obligatoire du boss du point de vente parce que à un moment donné, c'est laisser rentrer quelqu'un dans la famille, entre guillemets, et c'est à lui de valider. Et donc, ce que tu nous dis aussi, c'est que toi, sur certaines fonctions, c'est principalement du savoir-être. Et donc là, c'est aussi sur le terrain, ils ont largement les compétences pour valider ce savoir-être des personnes qui veulent recruter.
Ouais, pour moi, le savoir-être, c'est le principal. On est une boîte jeune, une boîte qui est un peu dans l'air du temps on essaie un peu justement de casser ces codes-là. Pour nous, les diplômes, c'est pas important.
Okay.
Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est l'expérience, c'est pareil. On se rend compte avec différentes expériences justement qu'on a eues dans les restaurants que un manager qui a peu d'expérience et qui est hyper motivé va pouvoir se développer, va pouvoir rentrer dans la culture d'entreprise, va pouvoir vraiment grandir. Et l'idée, c'est pour le collaborateur, ça va être de grandir avec nous. Plutôt que un autre collaborateur qui va avoir plus d'expérience et qui va arriver plutôt dans un terrain conquis, qui va plutôt avoir un discours de je sais faire, je sais que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et qui va pas obligatoirement comprendre comment la société fonctionne. Et à partir de là, ça devient tout de suite plus compliqué parce que y a une sorte de rapport de force qui s'établit et qui devient un peu moins sain.
Manager. Pour celles et ceux qui connaissent pas les codes de la restauration, mais c'est un directeur de.
Pour nous, c'est un directeur, exactement. Okay. Alors après, dans chaque.
Chaque marque a ses intitulés de poste, etc. Mais donc manager, c'est directeur. Juste comme ça, un directeur de Pokawa, en moyenne, chiffre d'affaires, il gère quoi?
À peu près 1 million.
Ok, voilà. Donc on est juste en train de parler de quelqu'un qui gère 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Exactement. Combien de personnes en moyenne dans le staff?
En moyenne, à peu près 10.
Ok, 10 personnes. Et donc, vous le recrutez principalement sur le savoir-être. Là aussi, j'aime entendre ça parce que quand j'en parle ou quand, de temps en temps, au travers de posts LinkedIn, etc., on met en avant ces choses-là, beaucoup nous disent « Ouais, mais vous racontez ça, c'est Disneyland ». Non, ce sont des choses réelles. Après, vous allez certainement regarder un peu de savoir-faire. En tout cas, vous essayez de trouver des compétences transverses derrière ce savoir-être, mais c'est une réalité chez Pokawa. Vous le faites également sur les fonctions support?
Oui, exactement. On le fait aussi sur les fonctions support parce que on veut vraiment garder cet état d'esprit-là. On est aussi une société qui s'est développée très vite. Par contre, on essaie vraiment de garder encore cet esprit très flexible. Que peut avoir une start-up où on est une moyenne d'âge qui est assez jeune, hein, en moyenne c'est à peu près 28 ans.
Ok, ouais, c'est très jeune.
Donc c'est très jeune, même au siège. Et donc l'idée, c'est vraiment d'insuffler une vraie dynamique pour pouvoir en fait se développer. C'est une vraie aventure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société qui est déjà intégrée depuis un moment ou qui roule tout seul. On est vraiment en fait chacun, on fait partie intégrante en fait du développement. Chez nous, il n'y a pas de différence entre les stagiaires et les contrats. Vraiment, un stagiaire, on lui donne autant de responsabilités, si il en est capable, évidemment. Il y a une approche qui est totalement différente, puisqu'il est là pour apprendre. Mais on va vraiment lui donner des vraies responsabilités pour qu'il puisse apprendre le mieux possible et à terme pouvoir prendre un poste en contrat. Dans mon service, justement, j'avais plusieurs stagiaires en administration, administration paye, c'est-à-dire qu'ils vont gérer toutes les parties contrat, toutes les parties paye, mais aussi qu'ils vont être responsables chacun de différents points de vente en termes de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a mis en place une adresse mail générique, c'est assez classique. Chaque collaborateur de restaurant peut envoyer un mail directement sur cette adresse-là pour poser n'importe quelle question. En termes de ressources humaines, ça peut être des questions sur les payes, ça peut être questions sur des avantages, sur du recrutement, sur de la mobilité. Voilà. Il y a vraiment tout. L'idée, c'est que ce stagiaire qui est en ressources humaines puisse du coup répondre à toutes ces questions-là.
D'accord.
Donc évidemment, moi, je suis derrière pour pouvoir l'accompagner, m'assurer que voilà, il est bien compris et qu'il réponde bien aux questions. Mais moi, je vais être en retrait. Je vais le laisser vraiment aller répondre aux questions. Et c'est comme ça vraiment qu'il va pouvoir apprendre, se développer et derrière, avoir une chance de pouvoir prétendre un poste. Puisqu'il aura vécu une vraie expérience et il sera pas en retrait. Il sera vraiment actif de son stage.
Je pense à une question là, quand tu dis, c'est un peu une hotline, en tout cas c'est ok, j'ai une question. Vous avez beaucoup de questions sur les payes ?
Ouais.
Ouais, c'est un vrai sujet ça. Hein ?
C'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ne comprennent pas obligatoirement leur fiche de paye. On est aussi dans un secteur de l'activité où... les salaires sont plutôt bas. Je pense par exemple aux employés polyvalents. Donc quand le salaire chaque mois oscille de quelques centimes, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc il faut toujours leur expliquer et les accompagner. Voilà. Vraiment en prenant en compte que ils savent pas obligatoirement bien fiche de paye. C'est une formation, hein. C'est-à-dire que nous en RH on sait le faire, mais un collaborateur qui vient de débuter la vie professionnelle ou alors un étudiant qui commence à travailler chez Pokawa, il reçoit sa première fiche de paye et il la comprend pas obligatoirement. Donc c'est toujours un peu délicat. On est aussi sur des secteurs d'activité dans la. On est, c'est toujours un peu délicat parce que sur une fiche de paye, on va avoir un salaire qui va être à peu près le même chaque mois. Dans la restauration rapide, on peut travailler du lundi au dimanche. Nos heures aussi varient chaque mois. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment bien faire comprendre aux collaborateurs en leur expliquant que chaque mois, ils peuvent travailler un nombre d'heures et le mois d'après, travailler moins. Et que finalement, en fait, tout va se réguler chaque mois.
Oui, parce que vous avez aussi beaucoup de temps partiel.
On a beaucoup de temps partiel.
Alors, la gestion des temps partiels est différente. Dès qu'ils prennent des congés payés aussi, ils se demandent pourquoi ils ne décomptent pas le nombre de jours travaillés, mais qu'ils doivent décompter le nombre de jours qu'il y a dans la semaine, etc.
Exactement.
Donc ça, c'est des questions récurrentes qui reviennent et qu'il faut gérer. Ok, non, mais c'est intéressant d'avoir ces éléments très concrets. Est-ce que tu peux nous donner comme ça peut-être un ou deux outils que tu as mis en place et que tu utilises toi dans ton quotidien RH et qui te permettent de piloter ton activité de ressources humaines au quotidien ?
Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. On a des KPIs en termes de turnover, d'absentéisme.
Ok, donc là on parle d'indicateurs.
Exactement,
okay, tout à fait. Indicateurs RH.
Indicateurs RH qui sont calculés chaque mois, qu'on envoie aussi à chaque manager.
Alors, on parle de quoi comme indicateur ? C'est quoi ? Tu parles, il y a quoi ? Du turnover ?
On a deux types d'indicateurs. On a du turnover.
Okay.
Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir calculer le turnover de chaque restaurant pour pouvoir, du coup, déterminer aussi la bonne santé aussi de l'équipe.
Okay.
Ça c'est important parce que on se rend compte en fait que un restaurant avec beaucoup de turnover cache parfois quelque chose. Ça peut être un mal-être de l'équipe, ça peut être une organisation qui n'est pas obligatoirement bonne. Après, du turnover, il y a du positif, il y a du négatif, il y a aussi du bon turnover, le turnover qui peut faire bien l'équipe.
Mm-hmm.
On a aussi tout ce qui va être absentéisme. Absentéisme, ça va être des arrêts maladie, des accidents du travail, des absences injustifiées. Et ces choses-là, ça va être. On va quantifier le taux d'absentéisme et ça c'est pareil en fait, ça peut refléter en fait aussi l'environnement de travail qu'il peut y avoir dans les restaurants.
La santé un peu du restaurant.
Exactement.
Le management qu'il peut y avoir dans le restaurant.
Exactement, et c'est des choses qu'on ne voit pas obligatoirement puisque on ne se déplace pas obligatoirement tout le temps dans les restaurants, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, surtout quand un collaborateur du siège arrive dans le restaurant, généralement tout est plutôt bien fait, et c'est assez difficile de réellement voir ce qui se passe. Et autre chose, c'est intéressant parce que, par exemple, à la fin de 2021, j'ai présenté les chiffres de turnover à tous les managers. Plusieurs managers sont revenus vers moi en me disant c'est bizarre, j'ai pas eu autant de turnover dans l'année. J'ai fait un point avec eux et je leur ai bien expliqué effectivement voilà toutes les on a repris mois par mois en fait ce turnover là et ils se sont rendus compte que en fait ils avaient eu pas mal de turnover dans l'année et ces chiffres là ils sont intéressants pour eux parce que ça va leur permettre de prendre du recul. Ils sont dans un quotidien, ils se rendent pas compte obligatoirement que voilà il y a un collaborateur qui est arrivé, qui est parti assez rapidement, il l'a remplacé. Ils voient pas obligatoirement ils peuvent pas quantifier en fait ça. Et quand tu leur donnes ces chiffres là, ils sont assez surpris derrière. Ils se disent waouh, en fait j'ai eu quand même pas mal de turnover et il va peut-être falloir du coup qu'il y ait un travail qui soit fait par rapport à ça.
J'adore ce que tu dis. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'avais mis le doigt quand j'étais DRH, que ce soit de Sushi Shop ou chez McDo. Il y a toujours beaucoup de ressentis sur le turnover. Souvent, hein, et tu le dis, tu demandes à un manager, il te dit « Ouais, je pense que le mois dernier, ça a été un peu mieux que le mois d'avant. » Ok, mais en fait, c'est quoi les chiffres ? Et il n'y a que les chiffres qui parlent en la matière. Après, tu l'as très bien dit aussi, hein, quand on parle de turnover, il faut regarder le quantitatif, mais le qualitatif également. Et il vaut peut-être mieux avoir un taux de turnover élevé sur des personnes qui ne sont pas bien à leur poste et qui ne sont pas bien à leur place et qui ne contribuent pas au résultat du point de vente qu'un faible taux de turnover, mais de personnes qui étaient des très bons contributeurs et qui étaient très performants. Donc ça aussi, il faut regarder toujours ces chiffres, les analyser en quantitatif et en qualitatif. Et puis sur l'absentéisme, 1% d'absentéisme, ça coûte 1% de la masse salariale. En général, on fait ce raccourci. Donc il y a un peu d'argent aussi en jeu.
Ouais, exactement.
Et à aller chercher. Donc,
exactement. C'est ça notre rôle aussi. Hein. Enfin, moi, mon rôle en termes de RH aussi, ça va être une fonction aussi business, donc coût, budget. Mais ça va être aussi de l'accompagnement. Accompagnement auprès des managers, puisque c'est eux qui sont la pierre angulaire entre le restaurant et le siège. Et c'est eux qu'on doit accompagner. Nous, je dis toujours, on a une fonction support. On bosse pour le business et on bosse pour accompagner et faire en sorte que tout se passe le mieux possible.
Ok, écoute, merci déjà de partager ces outils, les outils que tu utilises dans ton quotidien. Allez, comme ça, si on se projette un peu, mais c'est quoi, selon toi, dans ton environnement RH, là, je sais pas, l'enjeu à venir ? T'en vois un, là, dans les mois qui viennent, ou peut-être déjà quelque chose sur lequel tu es aujourd'hui ?
Chez Pokawa ?
Oui,
ouais.
Pour toi ?
Pour moi, l'enjeu, c'est, pour moi, c'est là, en ce moment, c'est l'intégration.
Okay.
L'intégration, puisque en parlant des KPIs, je me suis rendu compte aussi qu'on avait beaucoup de fins de période d'essai à l'initiative de l'employeur. Ça représente un gros pourcentage aussi de notre turnover. Donc l'idée là-dessus, ça va être vraiment de comprendre pourquoi il y en a, d'où ça vient, Est-ce que c'est plutôt un problème de sélection? Est-ce que c'est un problème d'intégration dans les restaurants? Chaque manager est totalement différent. Chaque manager va intégrer d'une manière différente. C'est aussi difficile parce que intégrer dans des bureaux, c'est pas la même chose qu'intégrer dans un restaurant. Dans des bureaux, on passe toute la journée, on peut avoir des temps un peu plus calmes pour rencontrer les gens, échanger avec eux. Dans un restaurant, notamment chez nous, on a un shift, un service de 5 heures. Ils arrivent à 10 heures, ils font la préparation, ils font le service, il y a la fin de service, ils font le nettoyage et ensuite ils repartent. C'est hyper saccadé. Enfin, c'est hyper organisé. Il n'y a pas obligatoirement de temps ou plus facile en fait, d'intégration. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler là-dessus, d'accompagner les managers et de leur dire, OK, voilà, on a assez de temps là pour intégrer, pour aller voir l'équipe, pour aller rencontrer le restaurant, pour aller faire le tour, pour voir comment tout fonctionne. Et ensuite, pouvoir faire des points aussi réguliers avec eux et s'assurer que le collaborateur comprend bien où est-ce qu'il est, donc l'environnement dans lequel il est, s'il se sent bien, et de pouvoir l'accompagner pour qu'il soit épanoui.
Ton suivi de départ en période d'essai fait partie de tes KPIs ?
Ouais.
Ok. Donc, exactement. Voilà, c'est la suite logique de ce que tu suis et de cet outil qui te permet vraiment de monitorer
exactement.
Ton activité et ton business.
Et ça, c'est très important parce que nous... Moi, l'enjeu que j'ai encore aujourd'hui, mais que j'avais aussi l'année dernière, c'est des outils géniaux qu'on équipe a mis en place, c'est l'évolution. L'évolution interne. Ce que je trouve moi génial dans la restauration rapide, et c'est un peu une mission, entre guillemets, un peu que je me donne, mais on est dans un secteur de l'activité où on peut donner la chance à n'importe qui n'a pas de diplôme de venir travailler et d'évoluer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, fondateur aussi. On veut vraiment les accompagner, on veut vraiment leur donner leur chance. On a mis énormément d'outils en place en termes d'évolution pour pouvoir justement leur proposer ces évolutions-là, pouvoir les accompagner. On a mis un outil qui s'appelle le Pokémove en interne. Et chaque début de mois, chaque collaborateur reçoit un SMS sur son téléphone avec un lien. Il va cliquer sur ce lien et il va arriver sur une page cachée de notre site internet avec toutes les offres d'emploi qui sont en cours. Donc, dans n'importe quelle ville, n'importe quel poste, que ce soit en restaurant, que ce soit au siège, les collaborateurs pourront postuler.
Okay.
Donc, nous, on va récupérer ces informations. On saura qu'effectivement, c'est une personne qui est en interne chez nous qui a postulé. Donc automatiquement, on va avoir un entretien avec son manager, avec le collaborateur qui a voulu, qui veut évoluer d'une manière horizontale, verticale, et qui va et un RH, un chargé de recrutement. Voilà, et on va échanger avec lui, échanger sur ses motivations, échanger sur son projet et comment on peut l'accompagner. Et à partir de là, on a pour chaque étape créé des parcours d'accompagnement. Pour qu'ils puissent justement évoluer à ces postes-là et qu'on puisse vraiment les former pour que dès qu'ils arrivent sur ce poste-là, ils puissent être sereins en fait dans son travail. On l'a souvent vu et moi je l'ai souvent vu au début quand on n'avait pas de parcours d'intégration ou de formation. On faisait évoluer les collaborateurs mais ils n'avaient pas vraiment de formation. Donc ils se sentent aussi un peu lésés, hein, c'est perdu, seuls et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour eux parce qu'il y a plus de responsabilités, mais il n'y a pas de formation. Donc, ils ne savent pas vraiment où ils mettent les pieds. Et vraiment, pour nous, on veut vraiment les rassurer pour qu'ils puissent vraiment évoluer et se dire à la fin qu'un employé polyvalent peut accéder à un poste de manager, directeur. Et pour nous, c'est génial parce qu'on se dit aussi qu'on les accompagne pour leur début de carrière et on peut les lancer, quoi.
Il y a une vraie utilité, on parle souvent d'ascenseur social, mais c'est vrai que des marques comme Pokawa ou d'autres sont là pour concrétiser tout ça et donner aussi sa chance à toute personne qui a envie d'évoluer. Après, évidemment, il faut s'investir dans ce qu'on fait, mais on le sent bien dans ce que tu dis, ce côté ascenseur social et donner sa chance et faire évoluer les gens pour celles et ceux qui en ont envie. Écoute Hubert, merci. Merci vraiment d'avoir partagé avec nous aujourd'hui l'aventure, parce que c'est une aventure Pokawa, et ton rôle, toi, de RRH là au milieu, avec les différents axes de ce que tu as mis en place, travaillé en premier, les outils, voilà, t'as tout donné. On passe à la conclusion et aux trois questions que j'ai l'habitude de poser en termes de conclusion. La première, c'est quel conseil tu donnerais au très jeune Hubert, hein, parce que toi, t'es pas vieux. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais t'as quel âge ?
J'ai 30 ans.
Voilà, t'as 30 ans. Donc, allez, quel conseil tu donnerais au tout bébé Hubert qui se dirait, tiens, moi, je veux commencer une carrière dans les RH et je veux me lancer dans les RH ?
La première chose, je pense, c'est de se faire confiance. Voilà, c'est vraiment d'avoir confiance aussi en ses capacités. C'est aussi pouvoir beaucoup communiquer. La communication, c'est extrêmement important, notamment dans les ressources humaines, de pouvoir vraiment échanger, comprendre, d'aimer aussi l'humain. Ça, c'est hyper important. Je pense que à partir de là, on arrivera à faire en tout cas un début de carrière, parce que j'y suis pour le moment, intéressant dans les ressources humaines.
Ok, super. Deuxième question, là tu pars sur une île déserte, quel livre tu emmènes avec toi et pourquoi ?
Alors moi je ne suis pas un grand lecteur, je ne lis pas énormément, par contre il y a quelque chose que j'adore faire quand je pars en vacances, c'est des mots fléchés. Donc je me dis que sur une île déserte, ce serait très bien. Ça me permettrait de pouvoir dépenser 20 ans. Donc en espérant avoir un stylo aussi.
Je t'imagine là, sur ton île déserte en train de faire tes petits mots fléchés. Dernière question, quelle personne tu me recommandes de contacter et d'inviter sur ce podcast 13e mois pour un prochain épisode ?
Moi, il y a une entreprise que j'adore et qui ressemble un petit peu à ce qu'on essaie de faire en tout cas aujourd'hui. C'est Alan.
Alan.
Ouais, la mutuelle Alan.
La mutuelle Alan.
Exactement. Je trouve qu'ils ont, ils sont hyper avant-gardistes sur plein de choses en termes de RH, sur leur organisation, que ce soit organisation en termes de personnel, mais que ce soit vraiment une vraie organisation sur les réunions, etc. Voilà, c'est des choses que je trouve hyper intéressantes. Donc l'idée, ce serait de pouvoir interviewer. Après, c'est Diane Rivière,
ok.
Qui travaille là-bas et qui justement s'occupe un peu de mettre en place tout ça.
Excellente idée. Merci beaucoup Hubert.
Merci
pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et puis bon vent à Pokawa et puis à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci, salut, ciao. Au revoir.